Paul Meuseroy, Thérèse Vigneault. Thérèse pleurait, les lèvres écrasées contre son mouchoir pour étouffer ses sanglots. Ils étaient assis sur un des bancs de jardin public, dans une allée déserte où de vagues lueurs d'étoiles filtraient entre les branches. Elle ne trouvait pas une parole à lui dire. Cette pensée que l'homme qu'elle adorait allait partir, que la musique qui leur arrivait par lambeaux rythmait les toasts d'une réception d'adieu, et qu'après demain, à la pointe du jour de l'aube, le régiment, clairons en tête, disparaîtrait loin-bas au détour de la grande route, et ne reviendrait jamais à Saint-Paul-Joux. Cette vision brusque de solitude, de volets fermés, d'amour brisé, lui serrait le cœur comme en un étau. Elle frottait son corps, enfiévrée contre le dolman de l'officier. Elle se pelotonnait dans ses bras et tressaillait sous ses baisers avec une immense et croissante douleur. C'était fini. Elle reprendrait la vie ancienne, sans rêve, sans joie, à côté de son père, de ce bon monsieur Vigneault, comme disaient les autres employés de la préfecture, de l'homme égoïste qui ne songeait qu'à sa paperasse et à ses parties de domino au café Trilou et à sa collection de dossiers. Elle se languirait ainsi qu'une exilée, toute seule, dans la morne maison de la rue Pressepeinte. Montoriol se taisait comme elle, l'étreignait avec un emportement désespéré. Les heures sonnaient dans les nombreux clochers, les feuilles mortes tourbillonnaient, mais comme s'ils avaient cédé au charme de la nuit douce et voulu s'imprégner d'un seul coup de tout le bonheur qu'interrompait cette séparation brutale, ils repassèrent, date par date, leur histoire depuis le bal officiel où il avait été présenté pour la première fois. Il la revoyait dans ses vastes salons, avec son air timide de jeune fille pauvre, qui a cousu sa toilette de mousseline elle-même, mais si jolie, avec ses cheveux d'un blond cendré que retenait un ruban bleu, sa tête de pastel, où les yeux brillaient comme les prunelles vertes des chattes, où les oreilles petites étaient piquées de deux petits grains de corail pareils à des gouttes de sang. Ils avaient valsé ensemble toute la nuit. Ils s'étaient écrit ensuite chaque jour. Elle allait avec son capulet rouge sur le front chercher ses lettres à la poste, restant et dès que le soir tombait, cela lui brûlait, l'être la rendait comme grise. Elle s'échappait par la porte du jardin. Elle courait le rejoindre dans les églises, dans les ruelles solitaires du faubourg. Ils se promenaient les bras à la taille, ils s'embrassaient, ils se juraient de s'aimer jusqu'à la mort. Et le jour où M. Vigneault avait pris un congé pour assister à l'enterrement d'une cousine qui lui laissait son héritage, elle s'était donnée tout entière, simplement, amoureusement, sans hésiter, comme une fiancée qui tient sa promesse. Elle lui appartenait maintenant. Dès qu'il faisait un signe, dès qu'il la désirait, elle la courait, lestée, pimpante dans la chambre du lieutenant, tirait les rideaux, se déshabillait comme si toute sa toilette n'avait tenu qu'à une épingle. Elle avait des chemises qui sentaient l'iris, une gaieté de gamine que la tiédeur des oreillers met en folie. Elle bernait son père comme un tuteur de comédie, n'attendait même pas pour s'enfuir qu'il eût boutonné ses manches de lustrine, tourné et retourné le dos. Il inventait des prétextes continuels pour expliquer ses absences, ses retours au milieu de la nuit, avec son corset roulé dans un journal et des frissons emmêlés que donne la hâte de l'heure oubliée. Elle ne se donnait même pas la peine de se recoiffer. Elle n'avait plus conscience ni des jours, ni des nuits, ni des mois. Elle dérivait à volo, ne voyait dans la vie qu'une succession de minutes pareilles, heureuses et trop brèves lorsqu'elle était auprès de son amant, mais inimitable, inflammée, morose lorsqu'elle se morfondait loin de lui, et parce que des soldats ameutés par une fille avait saccagé une guinguette de barrière parce que le colonel avait profité pour traiter le maire comme un domestique malhonnête parce que des querelles s'allaient dans les clafés. On expédiait le régiment à l'autre bout du pays, dans une garnison de frontière. Et Thérèse répétait, en baissant la tête, atterrée devant l'écroulement de son bonheur, « Mon Dieu, est-ce possible que tu t'en ailles si loin pour toujours ?» Alors, n'y tenant plus, il la supplia d'abandonner son père, qu'elle n'aimait pas, de déserter la maison familiale, qu'aucune affection ne la retenait. Il avait assez de fortune pour vivre à deux. Elle était libre de ses actes. Là-bas, personne ne la connaissait. Ils demeureraient ensemble. Elle serait comme sa femme. Il n'avait pas besoin de se cacher, de regarder la pendule, de mentir. Il lui montrait, comme en un rêve, comme en un nuage, une existence tranquille, béate, sans laquelle on s'assoupit, dans laquelle on s'assoupit, dans laquelle on s'enfonce. Les larmes de la jeune fille s'étaient séchées. Elle n'osait pas l'interrompre. Et lorsqu'il eut fini, elle lui noua câlinement la main tout autour du cou et murmura avec des inflexions lentes, « C'est vrai ?» « C'est bien vrai, dis. Tu veux vraiment complètement être que je sois avec toi ?» Thérèse était arrivée avec deux petites malles et la robe qu'elle avait sur elle. On aurait dit aller voir dans cet appartement meublé qu'il payait 60 francs par mois On aurait dit deux enfants qui jouent au ménage. L'ordonnance n'osait jamais ouvrir la porte. Pontoriol ne faisait plus de visite, ne mettait le pied au cercle que pour les réceptions, était continuellement aux arrêts, se dispensait 8 fois sur 10 de déplier sa serviette à la pension. Il s'endettait, mais il était heureux que dans son intérieur, les coudes sur la nappe, les deux chaises tout près l'une de l'autre. Il ne sortait qu'avec Thérèse, il s'affichait avec elle, en tenue. Il songeait à l'épouser, à régulariser cette situation fausse dont il souffrait quelquefois pour sa maîtresse. Et celle-ci acceptait tout ce qu'il exigeait, l'enveloppait de tendresse incessante. Avec son intuition de femme aimante, elle sentait bien qu'on l'épiait, qu'on la jalousait, qu'on sapait lourdement leur logis fermé comme une prison mystérieuse. Elle en avait d'abord été ulcérée, irritée jusqu'au tréfonds de l'âme, mais les baisers de son amant la consolaient aussitôt et détournaient le cours de ses idées noires. Ne fallait-il pas payer par quelque souffrance cet amour, ces joies? Avait-elle le droit de se plaindre, d'accuser le sort pour des vétilles absurdes? Que lui importait d'être toisée insolemment comme une gadoue par la colonelle à la messe, de se voir saluer que par quelques sous-lieutenants, d'apprendre par des lettres anonymes qu'on la tournait en ridicule, que la grosse madame Vignerolles, oh, une ancienne cantinière des oies ramassées en campagne par un capitaine décavé, l'éclaboussait par des calomnies grossières, que la femme du chef de musique, qui a défaut d'officier, couchait avec les agents-majors, disait en pinçant les lèvres maquillées: « Oh, mais c'est dégoûtant de tolérer des traînées pareilles dans un régiment. » Puis, malgré elle, devant cette guerre acharnée qu'on lui redéclarait, qui ne la désarmait pas un seul jour, elle eut peur. Elle perdit son assurance hautaine de femme qui se sait idolâtrée. On la relançait partout, on la traquait comme une bête dangereuse. On ne lui épargnait aucune humiliation, aucune torture. On écrivait sur elle des choses infâmes à Montoriol. On se moquait de lui pendant les pauses des exercices. Tout le régiment semblait être ligué pour les séparer, pour lui rendre cette liaison odieuse. On le poussait, on le punissait. Oh, le colonel l'avait noté déplorablement à l'inspection et rayé du tableau de l'avancement. Sa mère ne lui répondait plus et ne lui envoyait même plus sa pension accoutumée. Peu à peu, cela l'énervait, le montait contre la malheureuse qui n'était coupable après tout que de l'avoir écoutée. La haine des autres s'infiltrait dans son cerveau comme un poison versé goutte à goutte. Il devenait injuste, il la harcelait de taquineries méchantes, se moquait de son accent gascon, de son profil de bourgeoise, de ses toilettes modestes. Il s'emportait pour rien, jurait, lui reprochait avec amertume d'entraver sa carrière, de l'avoir acculé au fond d'une impasse. Il s'en allait en battant les portes, agacé par sa figure résignée, ses yeux baignés d'une tristesse mortelle, et lui criait: Maman, vraiment tu m'embêtes avec tes airs navrés. Pourquoi que je te rends malheureuse? Thérèse baissait la tête, ne se plaignait pas, ne dormait plus, ne lui adressait aucun reproche. Elle se contentait d'une poignée de main ou d'une caresse distraite, se débattait comme une blessée qui agonise sur la route au milieu des ténèbres, qui cherche en vain une flaque d'eau pour étancher sa soif ardente, et n'a plus le courage de se traîner et d'appeler au secours. Montoriol lui secouait les poignets, l'invectivait d'une voix enrouée d'ivrogne qui a lampé quelques carafons d'eau-de-vie. Il s'échauffait, titubait, en heurtant les meubles comme une masse inerte, et machinalement cherchait aux quatre coins de la chambre une cravache pour frapper la malheureuse. Elle était pâle et dévisageait de ses prunelles élargies par une épouvante affreuse. Ses tempes bourdonnaient comme martelées par des doigts opiniâtres. Elle sentait son cerveau se vider comme par une fêlure agrandie. Le lieutenant, exaspéré par ce silence, hurlait comme s'il eût voulu qu'on l'entendît d'un bout à l'autre de la ville. « Catin, catin, tu crois que j'ignore où tu vas pendant que je ne suis pas là? On t'a pour 100 sous, on t'aurait pour un paquet de tabac, et l'on te montre du doigt bras à la caserne, même les soldats. Tous les camarades ont passé, tous sont osés dans ce que de dire que c'était pas vrai, ose-le. Malivet, Sainclair, Dorloyol, tous ont été ont souillé, ont sali mes draps, salope. Et tu t'imagines que cela se passera comme autrefois, que je te consentirai à te tirer comme un boulet toute ma vie, à avoir à cause de toi l'air d'un idiot ou d'un Alphonse. Elle frissonnait. Ces phrases mauvaises entraient dans sa chair pantelante comme des coups de couteau. Et raidie, échevelée, elle s'exclama, les dents serrées: Je m'en vais, je m'en vais. Tais-toi, tais-toi, je m'en vais. Il éclata de rire et lui prit la porte au large. Elle descendit les escaliers d'un pas automatique de somnambule. Son peignoir balayait les planches poussiéreuses. Dans la rue, un de ses pantoufles tomba. Elle continua à marcher, déchirant son bas sur les pavés pointus. Elle murmurait avec une terreur machinale: Je m'en vais, oh, oui, je m'en vais, va. Et traversait les places et les carrefours. Des passants attardés la suivaient, la prenaient pour une racoleuse ivre. Elle allait droit devant elle, sans entendre, sans rien voir. Et elle dévala enfin sur la berge du canal, devant l'écluse des Célestins, d'où l'eau s'égouttait avec une plainte monotone. L'ombre épaisse des platanes noircissait la nappe stagnante. On y vit un grand linceul de velours sombre, Un reflet de l'univers sillait comme un regard navrant. Thérèse répéta encore: Je m'en vais, je m'en vais. Et se jeta dans le bassin. Le lieutenant Montoriol, Charles Edmond, a été proposé au choix pour le grade de capitaine. Il doit épouser en septembre la fille du général Comte Lavachette, commandant du 23e corps d'armée.